Salut et bonjour à Europe & Roll, l'émission sur Radio Fadjet qui rassemble info et dingo, avec cette semaine un regard spécial sur la Roumanie. On démarre donc avec une courte histoire de la Roumanie, pays que nous saluons au sein de notre chère communauté européenne depuis le 1er janvier. On enchaîne avec Cornelia et Lucien, deux jeunes Roumains interviewés par Steffi. Quand vous aurez tenu bon pendant tout ça, il y aura même une récompense. C'est un film assez décalé que va vous présenter Amélie. Gajolilo, il s'appelle, et ça dit tout, car en roumain, ça signifie tout simplement l'étranger fou. Mais écoutez d'abord les infos sélectionnées et présentées par notre charmant et impitoyable Marco.
L'Europe à 27. Le 1er janvier 2007, l'Union européenne s'est élargie à deux nouveaux membres. La Bulgarie et la Roumanie ont pu célébrer une adhésion préparée depuis la chute du communisme. Cet élargissement devrait être le dernier avant au moins 2010. À noter, c'est aussi au 1er janvier que la Slovénie a rejoint la zone euro. Espagne, le corps d'une deuxième victime d'un attentat commis par le mouvement indépendantiste basque ETA a été retrouvé samedi. L'explosion d'une voiture à l'aéroport de Madrid a fait 2 morts et 19 blessés. Les lieux avaient pu être évacués par les autorités espagnoles. Cet acte de violence des indépendantistes basques met fin à 9 mois de cessez-le-feu entre les terroristes et les autorités espagnoles. Le président José Luis Zapatero a annoncé la suspension du dialogue quelques heures après. La Pologne rattrapée par son passé, scandale à Varsovie. Stanislas Bielgus, qui devait être nommé archevêque de la ville dimanche, a avoué avoir collaboré avec l'ancienne police secrète communiste pendant plus de 20 ans. L'opinion publique polonaise est extrêmement choquée et exige sa démission. Stanislas Bielgus a dit qu'il se soumettrait à la décision du pape attendue cette semaine. Tabac et lieux publics. Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les mesures anti-tabac adoptées cette année dans de nombreux pays européens. En Belgique, les restaurants et les infrastructures sportives sont désormais non-fumeurs. En France, l'interdiction de fumer dans les lieux publics débutera au 1er février 2007, rejoignant l'Irlande et l'Italie. Et en Allemagne, depuis une semaine, les moins de 16 ans ne peuvent plus se servir des distributeurs, le mode de distribution le plus populaire outre-Rhin.
La musique qui suit, c'est les Pop Choppers featuring Citronix de une coopération franco-allemande avec la chanson Citron.
Ich bin ein Zitron.
Maintenant, c'est Sam et Christophe qui vont vous présenter l'histoire de la Roumanie.
Bonjour, je m'appelle Samuel Chalcalescu, je suis professeur de roumanologie à l'université de Maison-sur-Grange. J'aime le golf et bien évidemment la fondue savoyarde.
Bonjour, je suis Christophe Gauerescu, professeur des universités et auteur d'un livre sur l'influence ottomane dans la classe politique transylvanienne au XVe siècle. Nous allons vous présenter aujourd'hui, de manière synthétique, une courte histoire de ce pays fascinant qu'est la Roumanie.
Il est inutile de vous rappeler, chers auditeurs, que la Roumanie est un pays danubien bordant la mer Noire et frontalier de pays tels que la Bulgarie, la Bulgarie, la Moldavie, la Serbie et l'Ukraine. La Roumanie est un pays d'environ 22 millions d'habitants et son territoire fait grosso modo la moitié de la France, mais les frontières ont connu de multiples modifications.
En effet, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est là justement que c'est passionnant. Parce que voyez-vous, chers auditeurs, la Roumanie est un pays latin. Latin au milieu d'un océan ethno-culturello-linguistique slave. Le terme Roumanie, vous l'avez remarqué, fait penser à Rome. Tout a commencé en fait au 1er siècle lorsque l'empereur romain Trajan décide d'envahir le pays des Daces. Mais les Romains, plus disciplinés, finissent bien entendu par l'emporter. La population ne fait occuper que durant environ un siècle et demi, mais cela suffit à influencer sa culture et sa langue durablement. Ensuite, la Roumanie a été victime de vagues successives d'invasions barbares, et cela pendant près de 1000 ans. Inutile de préciser que ces gens n'étaient pas précisément des gentlemen. Ils débarquaient dans les maisons, fouillaient dans le frigo, mettaient les pieds sur la table et, accessoirement, brûlaient les femmes et les enfants. C'est pour cette raison qu'une partie de la population s'est réfugiée dans le massif montagneux local, les Carpates, conservant ainsi leur langue et leurs coutumes. Au XVe siècle, de nouveaux envahisseurs entrent dans le jeu, les Turcs ottomans. Ils font rapidement la conquête de la quasi-totalité de l'Europe orientale et dominent également le pauvre peuple roumain pendant de longues années. Néanmoins, cet empire gigantesque décline à partir du XVIIIe siècle et leurs voisins russes et autrichiens en profitent pour les dépecer quelque peu. C'est ainsi que l'essentiel des provinces roumaines passe sous la domination de la Russie et de l'Autriche. Il paraît donc évident que la Roumanie intéressait tout le monde. À partir de la moitié du XIXe siècle, commence à poindre une conscience nationale. Mais l'occupant se hâte d'éteindre les braises de cette ferveur fraternelle. C'était un comportement rationnel de sa part, mais il faut dire pas très funky.
Et c'est là qu'intervient quelqu'un qui, par contre, était très funky, Napoléon III. L'empereur réussit à obtenir la création d'un état roumain plus ou moins autonome en 1858. Et c'est notamment pour cette raison que les Roumains aiment les Français, chose peu banale à l'étranger, vous en conviendrez. En 1881, la Roumanie devient définitivement indépendante et est reconnue en tant que telle par les autres États européens. Quelques années plus tard, le monde se précipite dans la tragédie de la Première Guerre mondiale. La Roumanie, fidèle à sa grande sœur latine française, entre en guerre de son côté.
Oui, bon, il faut dire que c'était aussi un peu intéressé de la part des Romains, hein, puisque la Roumanie voulait s'emparer de la Transylvanie, qui était sous domination autrichienne, ne l'oublions pas.
Rebelote, la pauvre Roumanie se retrouve du côté communiste lorsque commence la guerre dite froide, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1948 qu'on proclama la République populaire de Roumanie, qui était aussi républicaine et populaire que je suis sportif. Autant dire qu'à l'époque, on serrait les boulons. Mais avec la chute de l'URSS, le peuple se souleva, kidnappa son dictateur et l'exécuta avec sa femme qui, paraît-il, avait un caractère exécrable. Enfin, entre historiens, on s'accorde à dire que cette révolution ne fut pas vraiment révolutionnaire puisqu'elle fut commanditée par les opposants au régime qui souhaitaient devenir calife à la place du calife.
Votre interprétation historique est un peu légère, je trouve. Hein. Mais bon, pour en revenir à l'après-guerre froide, c'était très simple. Après une transition démocratique assez agitée, la Roumanie présente sa candidature pour entrer dans l'Union européenne et rentre de manière presque inaperçue dans le club le 1er janvier 2017.
Mais là, nous touchons déjà plus à l'actualité qu'à l'histoire.
Le prochain morceau est du groupe Pass Skunk et s'appelle By Baleki.
Non sartu nautea ama, poliki, poliki, zuk ere sartu ninduzu, poliki, poliki. Aitak ere sartu nindun, poliki, poliki. Denek sartu ninduten, eta neu ere sartu egin nintzen. Eta neu ere sartu egin nintzen. Bai baleki, negar egingo nuke. Bai baleki, negar egingo nuke.
Pour vous donner une idée de la Roumanie moderne, Steffi a interviewé deux jeunes Roumains, Cornelia et Lucian.
Nous sommes avec Cornelia et Lucian, tous les deux Roumains. On va leur parler de l'entrée de la Roumanie à l'Union européenne. Donc tout d'abord, Lucian, tu as vécu le nouvel an et les fêtes de l'entrée à l'Union européenne en Roumanie. Comment as-tu vécu l'atmosphère là-bas ?
C'était un moment de très grand enthousiasme. Donc déjà depuis plusieurs mois, les médias ne parlent que de ça, de cet événement-là. Les préparatifs dans toutes les grandes villes se sont faits à un très grand moment à l'avance. C'était un moment d'enthousiasme vu que personne ne parlait que éventuellement ça pourrait être mauvais. C'était l'euphorie, je dois dire, c'était l'euphorie. Et c'est une année qui commence donc bien. une grande euphorie, c'est ce qu'il y a à retenir.
Et qu'est-ce que la population romaine attend exactement de cette entrée, Cornelia?
Je crois que c'est très important, surtout pour les jeunes, parce qu'on a la possibilité de voyager plus librement maintenant, de peut-être faire des études ailleurs, enfin, dans des autres pays. Je ne sais pas, on peut maintenant vraiment être apprécié à notre juste valeur, si je puisse dire. Mm-hmm. Parce qu'il y a toujours un peu des préjugés, et enfin, c'est très bien pour les jeunes, je trouve. Et aussi pour les plus jeunes que les jeunes, parce qu'ils vont grandir en Europe maintenant, ils ne vont plus être en dehors de l'Europe. Et, enfin, c'est très important pour eux et pour tout le monde.
Donc même pour vous, en tant que Roumaine qui habite déjà en France, ça va aussi changer quelque chose concrètement?
Oui, maintenant je peux voyager, par exemple, je peux aller en Angleterre. Jusque-là, on avait besoin d'un visa pour aller visiter l'Angleterre. Et je peux faire un échange Erasmus sans avoir besoin de visa aussi. L'année prochaine, j'envisage d'aller faire mes études en Angleterre. Donc je peux aller sans demander un visa, ce qui était problématique avant parce que j'ai déjà essayé d'aller étudier en Angleterre et je n'ai pas pu à cause du fait que la Roumanie n'était pas dans l'Union européenne. Donc ça change beaucoup, c'est vrai, pour mes futurs projets.
La Grande-Bretagne a pris une décision de limiter l'accès à son marché de travail expressément pour les Bulgares et les Roumains, chose qu'ils n'avaient pas fait pour les autres pays de l'Europe de l'Est qui ont accédé 3 ans plus tôt.
Et Lucien, pour toi qui as déjà habité en France il y a beaucoup de temps maintenant,
oui,
est-ce que
donc,
pour toi ça change encore quelque chose?
Oui, ça change quelque chose parce que les Roumains, en gros, ils ont toujours encore un syndrome d'infériorité par rapport aux autres Européens, surtout les Français qu'ils considèrent comme une sorte de divinité. Mais maintenant, ça leur permet de se mettre l'égal des autres et puis de se voir comme vrais Européens. Ce qu'ils s'attendent à l'avenir, c'est, bon, surtout en ce qui concerne la justice, peut-être moins de corruption, plus de droits pour les hommes. Par contre, il y a une très grande peur en ce qui concerne encore la suite de la transition qui ne s'est pas terminée, le chômage, le fait que les prix vont flamber. Je tiens à vous dire que le salaire moyen sur l'économie de 300 euros et que un litre d'essence, c'est la même valeur qu'en France, 1 euro. Voilà, c'est un problème de pouvoir d'achat qui va continuer.
Et voilà un bel exemple du klezmer musique traditionnelle juive de l'Europe de l'Est avec le groupe The Klezmerim et la chanson Bucarest, Bucarest comme la capitale de la Roumanie. Et on retrouve Lucian et Cornelia, les deux jeunes roumains, au micro de Steffi.
Cornelia, vos gros-parents sont paysans. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'eux, ils avaient une très grande peur qui accompagne cette entrée.
Et en fait, pour eux, ça va changer radicalement parce qu'ils élèvent des animaux dans leur petite ferme et ils sacrifient ces animaux. Et avec les nouvelles directives de l'Union européenne, tout va changer. Ils vont plus avoir le droit de faire de certaines choses qui sont pas forcément pour un moyen de survivre, mais aussi, je sais pas, ce sont des traditions qui sont passées des générations aux générations et ils pourront plus les pratiquer. Et, eux, ils ont, mes grands-parents, en tout cas, ont peur de l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne parce qu'ils savent pas ce qui va leur arriver, s'ils vont pouvoir continuer à vivre sur la ferme ou s'ils vont devoir tout vendre et, je sais pas, partir en ville ou ils savent pas, c'est...
En effet, par exemple, l'une des traditions, c'est à Noël de couper le porc. Donc, jusqu'à maintenant, on pouvait le couper avec le couteau et puis on vide le sang et puis ça se fait comme ça. Les nouvelles directives européennes qui vont s'appliquer à partir de l'an prochain disent que l'animal n'est plus supposé souffrir. Donc, il y a des mères qui ont acheté des fusils pour qu'il les tue par le fusil. Et donc il y a une organisation en plus pour que la tradition puisse continuer, mais bon, il faut que la mairie ait un fusil, quoi.
Et par rapport à la réaction des autres États membres de l'Union européenne qui ont été assez sceptiques par rapport à cette entrée,
Disons les médias roumains et même les roumains en général sont toujours été très enthousiastes et jusqu'à maintenant ils ont accueilli à bras ouverts toutes les décisions. Ce qui peut choquer même en Europe de l'Ouest pour ainsi dire, c'est que beaucoup de roumains sont favorables à ce que les décisions soient prises plus à Bruxelles qu'à Bucarest parce qu'à Bucarest c'est réputé d'être extrêmement corrompu. Donc on peut dire que c'est une nouvelle exception culturelle qui apparaît avec la Roumanie, c'est le fait que on apprécie les décisions bruxelloises, du moins pour l'instant. On ne sait pas comment ça sera dans 2 ans, mais...
Juste une dernière question à Cornelia, peut-être. Est-ce que pour vous, vous vous sentez plus européen aussi avec cette entrée et le fait que vous avez la citoyenneté européenne?
Le fait que j'habite en France déjà depuis 3 ans me fait sentir un peu européenne déjà. Et c'est vrai que ça change quand même parce que tu te dis maintenant je peux marcher sur la rue et je peux rencontrer des gens et dire que je suis roumaine et qu'on est aussi dans l'Union européenne. Donc qu'on n'est plus différent et j'espère que les préjugés vont disparaître aussi. Et oui, je me sens plus européenne, c'est vrai.
Écoutez maintenant la chanson Disparaîtra de Rona Hartner de la bande originale de Gacho Dilo, film dont vous retrouvez la critique après la chanson.
Le peuple, poporul, the people, the folk, gitan, tzigan, gypsy, tzigono, disparaîtra, dispare, disappears, verschwindet, du monde. Pe pământ, on earth, dar erde. Alors, l'enfant, copilul, the child, the kind, nomad, 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 nomade, renaîtra, revine. Come back, come zurück, du desert, in the shirt, in desert, in wüste. Vivra, rendir, reborn, geboren, du souffle, soufflul. La mer, Marie, of the sea, des mers et de la terre, Chupamund lui, and dirt, des wounds. Et sauvage, she selvatic, and wild, und wild, il, elle, she. Sauvra, salvera, saved, und hilft, le monde, pomundul, naîtra, vivra, sauvera, disparaîtra, renaîtra, vivra, sauvera, disparaîtra, renaîtra, alors l'enfant demande renaîtra du désert, des bras, du souffle de la mer et de la chair, qui sont vaches, alors l'enfant demande renaîtra du désert, des bras, du souffle de la mer et de la chair, qui sont vaches, qui donne son chien, disparaîtra, renaîtra, vivra, souffra, 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 disparaîtra.
On retrouve la critique du film Gadjo Dilo par Amélie.
Gadjo Dilo, sorti en 1997, est un film du réalisateur Tony Gatliff. Il raconte l'histoire d'un jeune Parisien, Stéphane, épris de la voix d'une certaine Nora Luca, dont il détient une vieille cassette héritée de son père. À la mort de ce dernier, Stéphane, incarné par Romain Duris, décide de retrouver la trace de cette mystérieuse chanteuse. Pour cela, il part en Roumanie, dans la province de Bucarest. Le premier être humain à qui il a réellement affaire est un villageois complètement alcoolique, Isidore, qui fait partie de la communauté tzigane locale. Isidore s'intéresse beaucoup à Stéphane et décide de l'installer chez lui, ce qui va soulever les suspicions et protestations superstitieuses de tout le village. Stéphane découvre les joies et les peines de la vie tzigane en Roumanie. Il s'éprend de leur mode de vie, de leur musique, de leur vodka aussi. Mais surtout, le Parisien tombe amoureux d'une danseuse tzigane, carrément sauvage, incarnée par la superbe Rona Hartner. Gadjo Dilo est une belle pièce d'anthologie sur les mœurs tziganes, la xénophobie et les préjugés qui isolent les gitans roumains du reste du monde. Mais surtout, Gadjo Dilo est un film tout en musique. Et quelle musique ! Les rythmes et les mélodies tziganes qui forment ces chansons, si merveilleusement bordéliques, ont été en grande partie composées par le réalisateur Tony Gatliff et l'actrice principale, Rona Hartner. C'est justement la musique qui lie Tony Gatliff au manouche, communauté dont il est d'une certaine manière devenu le chantre. Il aborde le thème des gitans en 1981 pour la première fois avec Corre Gitano et l'approfondira de film en film. Il se dit séduit par cette communauté, toujours en mouvement, et par un univers sonore et musical d'une très grande richesse. Pour Gatliff, la musique c'est le ciment qui rattache les humains. Son dernier film, sorti en 2006, Transylvania, une sorte de road movie à la Gatliff, est à voir absolument, comme toute sa filmographie d'ailleurs.
C'est déjà la fin de cette émission. La semaine prochaine, nous parlerons de ce que 2007 nous réserve, de l'avenir des relations entre la Turquie et l'Europe, et où va l'Europe. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver le dimanche à 13h30, le lundi à 19h30 et minuit, et le mardi à 12h30. C'était Europe'n'Roll sur Radio Fadjet. Salut et à la semaine prochaine.